point de mire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Constance Hubert.
C'est à une commémoration à laquelle vous invite ce point de mire, celle de la mort d'Henri-Alexandre Vallon, père de la République. Le 11 octobre 2004, l'Académie des sciences morales et politiques, en collaboration avec l'Académie des inscriptions et belles-lettres, célébrait dans la grande salle des séances le centenaire de la mort d'Henri-Alexandre Vallon. Son travail universitaire fut d'abord évoqué par Claude Nicollet, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui a insisté sur son ouvrage sur l'esclavage. Roland Drago, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, revint ensuite sur l'œuvre politique d'Henri-Alexandre Vallon et plus particulièrement sur l'amendement qu'il déposa en ces termes. Le président de la République est élu à la majorité absolue par le Sénat et par la Chambre des députés, réunis en Assemblée nationale. Il est élu pour 7 ans, il est rééligible. C'est cet amendement qui signe le début de la République, comme nous l'explique Roland Drago, membre de l'Institut.
Pierre Benoît était notre confrère de l'Académie française. Dans la première moitié du XXe siècle, sa réputation de romancier fut considérable. Il est maintenant dans sa période de purgatoire, un purgatoire qui semble devenir malheureusement durable. À côté de romans célèbres, il écrivit quelques nouvelles bienvenues et à tendance humoristique. Et il publia en 1922 l'une d'entre elles, intitulée La surprenante aventure du baron de Pradel. Nous sommes en janvier 1875. Pradel est député à l'Assemblée nationale qui siège à Versailles après s'être réuni à Bordeaux. Il appartient à la droite conservatrice et quitte le 30 janvier, au début de l'après-midi, son hôtel particulier à Paris pour se rendre à la gare Saint-Lazare afin d'y prendre le train des députés. Il s'isole dans la gare pour regarder ses notes, mais il se rend compte à un certain moment qu'une jeune femme d'une grande beauté l'observe. Elle provoque chez lui une extraordinaire fascination. Quand elle se lève, il la suit et elle l'entraîne dans les rues de plus en plus sordides qui entouraient à l'époque la gare Saint-Lazare, pour aboutir finalement à un café de la rue des Martyrs. À ce moment, elle disparaît et lui reprend ses esprits, s'efforce de regagner la gare au plus vite pour rejoindre Versailles. Il se précipite au château où siégeait l'Assemblée. De la salle des séances, dans une clameur épouvantable, un torrent humain s'écoulait, dit l'auteur. Il s'informe auprès de ses amis et on lui répond « Absent à un tel moment ?» Le malheureux explique alors « Profitant de mon absence, d'une absence obtenue, vous le savez maintenant, par quel moyen infernal, les partis de gauche en rang serré avaient donné l'assaut. Un des leurs, M. Vallon, était monté à la tribune, avait déposé un amendement funeste. Ah, tout avait été calculé de main de maître. L'irréparable était accompli, la République avait été votée à une voix de majorité. Il ne s'agit que d'une nouvelle qui ridiculise un vieux député caricatural. Mais vous avez compris tout son sens, et encore en 1922 et encore aujourd'hui, on dit que l'amendement Vallon a conduit à l'adoption de la République à une voix de majorité. Ce n'est pas la seule question, bien sûr, qu'on doit traiter dans cette enceinte, et je pense qu'il faut à la fois, sur le plan juridique et sur le plan politique, examiner les conditions d'adoption d'abord, et les conséquences ensuite de l'amendement Vallon. La période qui se situe entre septembre 1870 et la date du vote des trois lois constitutionnelles de 1875, un peu moins de 5 ans, n'est pas une période vide. Sans doute, le rôle de l'Assemblée, qui avait été élue après la conclusion de l'armistice, était de donner une constitution à la France, et bien sûr, on reviendra sur cette question fondamentale. Le chef de l'exécutif était, vous le savez, Adolphe Thiers, jusqu'à sa démission en mai 1873. Mais le titre de président de la République lui avait été conféré par une loi du 31 août 1871, et ce titre fut maintenu par la loi du 13 mars 1873, c'est le titre qui fut donné à MacMahon lorsqu'il fut élu le 24 mai 1873. Je voudrais, parce que cela me semble important, essayer, avant d'aborder la question principale, de montrer les réformes qui furent déjà faites par l'Assemblée de Versailles dans le domaine de la législation. D'abord, le gouvernement, vous le savez, a abrogé le 19 septembre 1870 l'article 75 de la Constitution de l'an 8 sur la responsabilité des fonctionnaires, un texte que, c'est Tocqueville qui parle, tous les régimes avaient confirmé parce qu'il permettait de placer les fonctionnaires à l'abri de toutes les poursuites. Elle avait voté aussi la loi du 16 août 1871 sur les conseils généraux, loi qui est actuellement intégrée en grande partie encore dans le Code de l'administration territoriale, la loi du 15 février 1872, beaucoup plus célèbre, dite loi Trévenec, qui donne aux conseils généraux un pouvoir quasiment constitutionnel en l'absence d'existence d'une assemblée législative et qui figure encore dans nos textes applicables, et enfin la loi du 24 mai 1872 sur le Conseil d'État, je suis entouré par deux membres du Conseil d'État, et ils en savent l'importance et la porte. Mais la loi du 17 février 1871, qu'on appela Constitution Rivet, du nom de l'auteur de la proposition, employait l'expression « Président de la République », et par conséquent, c'est dès ce moment que la notion de Président de la République a été employée, mais avec des restrictions très sensibles, d'abord pour 3 ans, responsable avec son gouvernement devant l'Assemblée, et on a pu considérer que cette expression n'avait pas, à l'époque en tout cas, de sens précis, sauf le sens étymologique, pour reprendre l'expression de Jules Favre, qui l'avait analysé. On continuera à demeurer dans l'ambiguïté et dans le temporaire, avec la loi qui va suivre du 24 mars 1873, qui crée pourtant ce qu'on a appelé la Commission des Trente, qui n'avait cessé de continuer son action par la suite, et qui disait avoir, qui devait avoir pour mission essentielle d'établir un projet de constitution. C'est alors que Thiers fut proposé par Dufort un projet plus clair consacrant définitivement la République, mais ce projet fut rejeté par 360 voix contre 344, déjà des espaces, vous le voyez, assez étroits, ce qui entraîna la démission de Thiers. Mais MacMahon fut immédiatement élu avec seulement 390 voix, une contre et 330 abstentions. Tous ces chiffres méritent d'être retenus parce qu'ils montrent à la fois la division très systématique de l'Assemblée et en même temps les virtualités d'évolution qui existaient entre ces masses. Peu après, l'Assemblée adopta la loi du 30 novembre 1873, dite loi du septennat, qui reprend l'expression aussi de président de la République et qui est ainsi rédigée. Le pouvoir exécutif est confié pour 7 ans au maréchal de MacMahon, duc de Magenta, à partir de la promulgation de la présente loi. Ce pouvoir continuera à être exercé avec le titre de président de la République et dans les conditions actuelles jusqu'aux modifications qui pourraient y être apportées par les lois constitutionnelles. Entre-temps, la Commission des Trente continuait à travailler en n'oubliant pas son rôle exclusif qui était d'établir un projet de constitution. mais elle fit traîner les choses pour des raisons qui sont évidentes et qui ressortent des votes que je viens de citer. La durée des travaux ajoutée à la période du septennat aboutir à faire traîner les choses de façon excessive, en attendant visiblement l'évolution de la situation politique. Au bout d'un certain temps, l'Assemblée se heurta pourtant à une agitation populaire, car outre son désir de ralentissement, la Commission avait à trancher entre les diverses propositions qui lui étaient soumises. Les projets furent très nombreux et Vallon lui-même déposa en juillet 1874 un projet de constitution qui fut rejeté avec une majorité considérable et qui pourtant fut presque intégralement repris par la suite. C'est vous dire tous les mouvements qui pouvaient agiter cette assemblée et tous les transferts qui étaient amenés à se produire. Le projet de la commission prévoyait seulement une institutionnalisation du septennat permanent, d'où d'ailleurs l'expression « loi constitutionnelle » et non pas l'expression « constitution » qui fut employée et qui demeura pendant toute la durée de la Troisième République. Une proposition Laboulaye essayait de clarifier les choses, mais elle fut rejetée par 374 voix contre 363. Laboulaye était, il faut le rappeler, l'ami et le confrère d'Henri Vallon. Et j'ai l'impression, j'ai le sentiment qu'il faudrait étudier de très près leur relation. Je connais bien Laboulaye parce qu'il a été le premier président de la Société de législation comparée dont j'ai été le président il y a quelque temps. Et il a joué comme comparatiste, professeur au Collège de France, membre de votre académie, monsieur le Perpétuel, un rôle très important qui, dans l'histoire, a été quelque peu effacé par l'aura dont a été entouré Tocqueville. En tout cas, on voit que progressivement, les majorités se transformaient, s'étiolaient, se déplaçaient, en même temps que le centre-gauche recherchait une solution intermédiaire. C'est alors que Alexandre Vallon saisit l'occasion de présenter le texte suivant. Le président de la République est élu à la majorité absolue par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Il est nommé pour 7 ans, il est rééligible. Ce texte fut, l'histoire nous montre bien, fut adopté par 353 voix pour, avec 352 voix contre, d'où la nouvelle de Pierre Benoît. La désignation impersonnelle, et c'est cela qui mérite d'être souligné, la désignation impersonnelle remplaçait la désignation personnalisée et pour la durée et pour l'appellation. Toute la différence était là. On peut considérer que plus d'une centaine de députés monarchistes s'étaient ralliés, les mêmes, mais avec un chiffre un peu différent, qui avait élu MacMahon. Le verrou avait sauté et la loi constitutionnelle du 25 février 1875 reprit intégralement le texte dans son article 2. Le nom de Vallon est donc entré dans l'histoire, non seulement dans l'histoire de France, mais aussi dans l'histoire politique et constitutionnelle, avec même, on va le voir, une portée même beaucoup plus lointaine que celle que l'on pouvait imaginer. Il avait à l'époque, vous l'avez entendu, 63 ans. On l'avait connu à l'époque de la Seconde République. Il avait été le collaborateur de Schœlcher et on a parlé de son action à propos de l'esclavage. Député du Nord, il avait démissionné, comme on l'a rappelé tout à l'heure, lorsqu'a été adoptée la loi du 30 juin 1849 qui restreignait le suffrage universel. pendant toute la période du Second Empire, il s'est contenté d'avoir ses activités intellectuelles, universitaires, et n'a pas eu d'activité politique, et il venait d'être élu député du Nord en 1871. La proposition d'amendement était signée avec lui par des députés peu connus, sauf justement Laboulé, son confrère à l'Académie des inscriptions, son ami, et celui avec lequel il a dû avoir, et il faudra peut-être qu'on le recherche, plus de relations qu'on peut le supposer. D'autres amendements avaient été déposés par Vallon, et notamment aussi l'amendement sur la dissolution de la Chambre des députés, avec les conditions qui figureront également dans la loi constitutionnelle de 1875. Et pour conclure sur ce point, on dira que l'amendement Vallon a confirmé le ralliement d'une partie importante de la droite à la République et qu'il permet de sortir de l'impasse du texte constitutionnel pour un régime qui finalement aura duré 65 ans. Il faut maintenant en déterminer les conséquences. Le parcours républicain, c'est le mot qui a été employé quelquefois, suivi par Henri-Alexandre Vallon, a déjà été étudié et je n'y reviendrai pas pour la période postérieure au 30 janvier 1875. Sur le plan strictement juridique, peut-on dire, comme on l'a dit à l'époque et comme on le redit constamment, que la République a été établie en France à une voix de majorité? Ma réponse est ambiguë, peut-être hésitante, mais elle serait plutôt négative, mais simplement avec une vision extrêmement juridique. Ce serait ignorer, en effet, la procédure suivie, qui a été analysée avec soin à l'époque et qui a montré comment le processus à propos de l'adoption des lois constitutionnelles a été suivi. Je pense que celui qui a étudié la question de la façon la plus pertinente est notre confrère de l'Académie des sciences morales et politiques, Adhémar Esmain, qui fut, je pense, un des représentants les plus illustres de notre Assemblée, historien, privatiste, constitutionnaliste, comparatiste, et dans la notice que j'ai faite à son sujet pour le volume du bicentenaire de l'Institut, je rappelais que les Américains le comparaient à Bryce et les Russes à Jean Baudin. Donc, Adhémar Esmain, dans son cours de droit constitutionnel, a étudié la question de très près du point de vue de la stricte analyse juridique. L'amendement était présenté en première lecture du projet de loi et le texte devient donc un élément essentiel de la loi constitutionnelle qui sera la loi sur l'organisation des pouvoirs publics qui comporte seulement 14 articles. La plupart d'entre eux sont très différents les uns des autres. Il n'y a pas d'unité complète dans cette loi qui se contente de lancer des principes qui ont quand même duré, dans le fond et dans le style, qu'avait préparé la Commission. Il faut noter que Vallon participa à de nombreuses réunions de l'Assemblée, des réunions de cette Commission, qu'il participa à la réécriture, on le voit pour la dissolution, d'un certain nombre d'articles. Lorsque, en troisième lecture, l'article 2 fut soumis au vote, le 24 février, il fut accepté par 410 voix contre 218. Je veux redire ici combien j'estime que les chiffres ont une importance dans la mesure où ils montrent progressivement l'abaissement de telle majorité, l'élévation au contraire de telle autre. 413 voix contre 218. Et le projet d'ensemble de la loi fut adopté le 25 février, elle a été promulguée le jour même, obtint 475 voix contre 254. C'est vous dire que, évidemment, dire que la République a tenu à une voix ne consiste qu'à analyser un élément dans la progression de la procédure parlementaire. Donc, Vallon a fait preuve, pendant cette courte période, de sa compétence comme constituant. Et je trouve qu'il est beaucoup plus important de dire qu'il aura été un constituant très important et par ce projet écarté de façon honteuse l'année précédente et dont la plupart des dispositions ont été reprises ensuite avec une majorité importante et par l'amendement et par la dissolution, de telle manière que le texte de cette loi de 1875 fait vraiment apparaître la personnalité de Vallon dans l'ensemble de ses dispositions. Il y a plus. Cet ensemble de circonstances a fait que le système parlementaire a été mis en place par les textes, mais que ce système parlementaire était un système dit dualiste par les spécialistes, c'est-à-dire un système impliquant des liens entre l'exécutif, entre le gouvernement d'une part à l'égard du chef de l'État et à l'égard des assemblées d'autre part. C'est-à-dire un système parlementaire visant à instituer un équilibre de pouvoir entre le chef de l'État et les assemblées, système qui avait été proposé dès la monarchie de Juillet et qui, par conséquent, préfigure, avec cette caractéristique qu'il avait en 1875, en ignorant ce qui allait se passer par la suite, préfigure la constitution de la Ve République. Le fonctionnement de ce système à contre-emploi dû aux maladresses de MacMahon, au moment de la crise du 16 mai, devait conduire, sous la Troisième République, à l'effacement relatif du président et aboutir à son déclin et à sa fin. De ce point de vue, vous le voyez, et je crois qu'on l'a fréquemment souligné, les lois constitutionnelles de 1875 préfigurent la Constitution de 1958 et la Ve République. Du point de vue politique, enfin, l'adoption d'amendements Vallon s'inscrit dans cette évolution qui a été un peu le fil conducteur de ce que j'ai dit ici, dans une évolution dont le point de départ a été la fameuse lettre du comte de Chambord de 1873, avec le départ d'une partie des légitimistes et des orléanistes, et qui a débordé ensuite sur les partis républicains. Autrement dit, le désenchantement de la droite qui s'est rallié à cette époque a abouti à la constitution d'une majorité. Mais ce ralliement d'une partie de la droite allait créer dans son sein, et là encore il y a une préfiguration de l'avenir, ce ralliement de la droite allait créer dans son sein un facteur de division qui n'a pu s'étouffer, qui n'a pu disparaître et qui lui est encore consubstantiel. L'affaiblissement qui en résultait, accentué par la crise du 16 mai, devait conduire, bien sûr, quelques années plus tard, à l'élection de Grévy en 1879, au succès du Parti radical en 1880 et à la révision des lois constitutionnelles en 1884. L'amendement Vallon n'a pas correspondu pour une voix à la proclamation de la République. Il n'a été qu'une étape dans une évolution qui se précisait depuis 1873 et dont les causes étaient celles que j'ai indiquées, qu'elles fussent publiques ou secrètes. Mais il a, et je viens de le dire, fait sauter le verrou. Sa singularité a eu l'avantage de créer la surprise et l'émotion génératrice d'une plus grande libération des opinions. Et c'est bien pour toutes ces raisons, en tant que un constitutionnaliste majeur, que Henri-Alexandre Vallon suscite l'hommage que nous lui rendons aujourd'hui.
Roland Drago, membre de l'Institut, nous a montré, lors de la journée célébrant le centenaire de la mort d'Henri-Alexandre Vallon, le contexte et les conséquences sur le plan institutionnel et historique de l'amendement Vallon. Retrouvez le texte de la communication de Roland Drago sur le site de l'Académie des sciences morales et politiques, www.asmp.fr.